Épilogue. Métamorphose. Shriver se reposait. Plus d'acharnement, plus de lutte. Sa douleur même s'était assourdie en une pulsation lancinante. Elle restait suspendue entre deux, dans des ténèbres qui n'étaient ni serpent ni dragon. Il y avait de la paix dans cet état inéluctable. Quand viendrait l'été, Tintaglia gratterait l'épaisse couche de feuilles qui les abritait. Quand la chaude lumière de l'été effleurerait son cocon, elle sortirait dragon. Le voyage tortueux était enfin achevé. Lorsque Parangon et celle qui se souvient les avaient amenés à l'embouchure du fleuve, les serpents avaient été sceptiques. Nul ne reconnaissait l'ancien fleuve des serpents dans ce flot laiteux et tumultueux. Il les avait suivis, saisis d'appréhension. Beaucoup avaient péri. Seules les exhortations effrénées de Tintaglia avaient donné à Shriver le courage de continuer. Quand ils avaient atteint la construction maladroite que les humains avaient jetée en hâte sur le fleuve pour les aider, elle avait désespéré. L'eau était peu profonde, les méandres trop serrés pour tourner à l'aise. Les humains, visiblement, ne connaissaient rien aux serpents et elle ne pouvait leur faire confiance. Au moment où elle renonçait, un jeune ancien était apparu. Sans se soucier des dangers de l'eau impétueuse et de la peau toxique des serpents qui se débattaient, il avait marché sur la construction et l'avait poussée à continuer. Avec des mots aussi doux que le souffle du vent sur les ailes, il leur avait rappelé tout ce qui les attendait quand ils sortiraient de leur cocon. Il avait orienté les pensées de Shriver vers l'avenir. Elle avait vu les autres reprendre courage, dédaigner la souffrance pour franchir péniblement le labyrinthe. Ce fut une torture de sortir de l'eau, de se vautrer sur la rive. Tout cela aurait dû se dérouler par un temps clément et non dans les âpres rigueurs de l'hiver. Sa peau avait commencé à sécher trop vite. Elle ne pouvait se fier aux humains qui se précipitaient vers elle et ils redoutaient manifestement sa crinière. Ils avaient versé des tas de boue striée et d'argent près d'elle. Elle avait barboté pour essayer de s'en couvrir. Tout autour d'elle, les autres faisaient de même. Tintaglia marchait parmi eux en les exhortant. Certains avaient manqué de force pour dévorer la boue et la régurgiter avec les sécrétions qui la transformaient en longues mèches. Shriver sentit que son dos allait se briser alors qu'elle s'acharnait à lever la tête assez haut pour tisser un cocon complet autour d'elle. Elle avait vu ses Surea et Molkin enrobés avant qu'elle ait réussi à terminer sa propre enveloppe. Ils s'étaient immobilisés, leur cocon était devenu d'un gris terne, et elle s'était sentie abandonnée et reconnaissante. Elle était heureuse de les savoir sains et saufs. Ces deux-là, au moins, auraient une chance de sortir à côté d'elle. Le svelte ménestrel conteur était mort au cours de la bataille navale. Les Chalcédiens avaient massacré Silic le Rouge, mais l'immense Kélaro était dans son cocon, non loin d'elle. Elle n'allait pas arrêter sa pensée sur ceux qui avaient péri, mais attendrait le soleil et l'émergence de ses amis qui avaient survécu. L'esprit là, elle se laissa dériver dans les rêves du plein été. Dans ses rêves, les cieux étaient peuplés de dragons. Les seigneurs des trois règnes étaient de retour.
Vous venez d'écouter Les Aventuriers de la Mer, tome 9, Les Marches du Trône, de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David Maresco, lu par Vincent Deboire. Une production Audible Studio.